Vous écoutez RTL.
Dans quelques minutes, nous serons avec Laurent Gérard, mais à 8h39, la revue de presse avec Adeline François. Et dans la presse ce matin, Adeline, principe de réalité.
Il est toujours étonnant de constater parfois ces bégaiements de l'histoire. Il y a pile 100 ans, le 7 avril 1917, les journaux faisaient leur une sur l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne, votée la nuit précédente par le Congrès américain. Les États-Unis pourtant ne voulaient pas y aller. Le président Wilson avait même brandi, 3 ans plus tôt, en 1914, la neutralité américaine. Il avait été réélu en novembre 1916 en promettant de ne pas intervenir dans la guerre qui déchirait la vieille Europe. Promesse de campagne qu'il ne pourra rapidement plus tenir au nom du principe de réalité. C'est le Figaro.fr dans ses pages Histoire qui nous le rappelle ce matin. 100 ans plus tard, c'est comme si l'histoire se répétait pour Donald Trump, qui a donc choisi cette nuit de frapper la Syrie, ce que l'Amérique avait refusé de faire il y a un peu plus de 3 ans. Trump est peut-être devenu hier président des États-Unis, écrit Arnaud Delagrange dans le Figaro. Il a pris la mesure de sa charge, de la complexité du monde et des réponses qu'il exige. Coup de semonce, titre le Huffington Post, qui souligne ce matin que le Pentagone a diffusé dans la nuit la vidéo du lancement de ses missiles tirés depuis les navires de la 6e flotte basée à Naples en Italie. Ils peuvent atteindre des objectifs terrestres situés à plus de 1000 km. La guerre des images a commencé. Mais pas seulement, rappelle Frédéric Autran sur Libération.fr. Pour Trump, l'exercice est aussi politiquement périlleux. Tout engagement supplémentaire en Syrie pourrait susciter les critiques de nombreux de ses partisans à qui il n'a eu de cesse de promettre une Amérique tournée vers les Américains et moins interventionniste. Washington passe à l'attaque, titre Le Monde de cet après-midi, qui note que ces frappes marquent un spectaculaire revirement de Trump sur le dossier syrien, lui qui avait publiquement enjoint au président Obama de ne pas intervenir en 2013. Obama renoncera in extremis à déclencher des raids aériens pour punir Bachar al-Assad. Et ce renoncement, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui y revient ce matin avec les regrets de François Hollande. La question taraude, paraît-il, le chef de l'État. Qu'est-ce que la France aurait pu mieux faire en Syrie? En 2013, tout avait été planifié jusqu'à la volte-face de dernière minute d'Obama. L'opération portait même un nom de code, Hermès. Dans la mythologie grecque, il était le dieu du commerce, mais aussi l'inventeur des poids et des mesures.
Et voilà qui nous amène Adeline à la campagne présidentielle, J-16 avant le premier tour.
La politique, une passion française, titre Le Parisien, qui est donc allé à la rencontre ce matin des sympathisants de tous bords qui remplissent les meetings. Le journal L'Opinion lui fait carrément sa une avec les secrets de la conquista de Mélenchon. Le journal libéral tente de percer le secret de la Mélenchon mania du moment. En fait, écrit le journal, le leader de la France insoumise a su adapter les codes des nouvelles gauches pour élargir son électorat. Opposition peuple caste, valorisation des gens, disparition de la couleur rouge. Il y a aussi dans L'Opinion le dessin de CAC. À gauche, Benoît Hamon se désole. C'est idiot, on va devoir se partager le peuple de gauche. À droite, Mélenchon lui répond bon, aucun souci, je te laisse la gauche et je prends le peuple. L'Opinion qui raconte un peu plus loin le quitte ou double de François Fillon ce week-end. Il va tenir meeting porte de Versailles dimanche, meeting qui constitue le dernier espoir de la droite. Convoquer des dizaines de milliers de personnes en plein milieu des vacances scolaires, c'est un pari risqué, lui ont dit plusieurs de ses proches, mais il a insisté. Alors, tout a été mis en place pour sublimer la mobilisation de dimanche, filmer la foule des 20 000 personnes attendues. Ce qu'on veut, c'est qu'en voyant les images, les gens aient envie d'en être. Paris Match revient aussi ce matin sur la folie des meetings. La France se réveille, veut croire l'hebdo, qui au passage livre une confidence de François Fillon. Chaque matin, dit-il, Pénélope met le réveil à 6h30, car elle craint une nouvelle perquisition. Principe de réalité, sans doute.
Principe de réalité au Japon également, ce matin.
Oui, figurez-vous que depuis le début de cette semaine, il n'est plus possible de dîner entre 2h et 7h du matin dans les grandes villes nippones, où les restaurants offrent pourtant un service 24h sur 24 depuis des décennies. En cause, non pas une grève, non, une pénurie de main-d'œuvre. Le Japon est en manque de chômeurs, titre ce matin Les Échos. Le taux de chômage au Japon est tombé à un plus bas historique à 2,8%, c'est-à-dire sous le seuil du plein emploi dont on rêve pourtant chez nous. Pour vous faire une idée, au Japon, pour 100 chômeurs en ce moment, il y a aujourd'hui 143 offres d'emploi. La restauration, très gourmande en personnel, a été la première touchée. L'industrie et la logistique commencent elles aussi à baisser leurs activités à défaut de pouvoir recruter. C'est pas la vitalité économique du pays qui est en cause, non. Le problème, il est démographique. Le taux de fécondité est très très faible depuis. Le Japon compte aujourd'hui 10 millions d'habitants âgés de 65 à 69 ans. Songez qu'il n'était que 8 millions il y a encore 5 ans. Dans le même temps, les 15-64 ans ont perdu 4 millions de personnes dans leur population. Alors la seule solution pour le moment, c'est de faire travailler les plus âgés, qui n'acceptent pas les volumes horaires énormes, ils n'ont plus la forme. La solution serait le recours à l'immigration, que refuse obstinément le gouvernement de Shinzo Abe, par peur de perturber une population japonaise extrêmement homogène. On lit cet article des Échos et on se prend soudainement à avoir très peur que le pays du soleil levant n'applique qu'un seul principe de réalité, puisqu'il manque des hommes, fabriquons plus de robots.
C'était donc la revue de presse d'Adeline François.